Michel Schmitt.
Bonjour.
Vous publiez chez Albin Michel Soleil sombre, hein, c'est le troisième tome de la traversée des temps, une histoire de l'humanité prévue en 8 volumes, hein, c'est ça,
oui.
500, 600 pages chacun.
À peu près,
ce qui
oui.
fera à peu près 5000 pages au total. Bon, ce troisième tome nous emmène en Égypte ancienne, au temps des pharaons. Nous sommes en 1650 avant Jésus-Christ, à la cour de Meri-Osorré. C'est l'époque aussi d'un certain Moïse, hein, qui va quitter l'Égypte, je vous cite, pour vivre et penser différemment. En quoi est-ce que cette époque-là permet de comprendre notre époque à nous? Comment nous en sommes arrivés là? C'est la question que vous vous êtes posée. Vous êtes allé chercher dans cette époque des traces, des explications de notre 21e siècle aujourd'hui.
Je pense qu'en fait, l'Égypte ancienne, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, mais sans doute la plus longue parenthèse, puisqu'elle dure 3000 ans. Nous, avec le christianisme, on est des petits pieds, on en est juste à 2000 ans. Et cette civilisation de 3000 ans, finalement, elle aurait pu durer encore. Elle avait en elle une espèce de tranquillité et de rondeur qui lui permettait comme ça de vivre. L'Égypte, c'est une oasis au bord du Nil, bien sûr, au milieu du désert, mais c'est aussi une oasis temporelle, à un moment à part. Je pense pas qu'on doit beaucoup de choses à l'Égypte, mais par contre, on a tous une fascination pour l'Égypte.
Alors, qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans cette Égypte ancienne? C'est celle d'avant la rationalité grecque, c'est celle d'avant le monothéisme.
Hein,
exactement. Il y a des dieux à peu près pour tout dans l'Égypte ancienne.
C'est-à-dire qu'en Égypte, sont liées des choses qu'ensuite la raison va séparer. L'animal et l'humain. On représente un homme avec une tête de chacal. Le divin et l'humain. Le féminin et le masculin. Par exemple, le Nil, qui est à la fois puissant comme un homme et généreux comme une femme, est représenté par un androgyne bleu.
La vie et la mort.
La vie et la mort, surtout, c'est ça qui nous frappe aujourd'hui. C'est-à-dire que la mort est présente dans la vie et la vie est présente dans la mort. La mort est présente dans la vie puisque les Égyptiens ont un grand souci de préparer l'au-delà et aussi avec des pratiques de momification, d'embaumement, etc. Et puis les économies qui font toute leur vie pour pouvoir se payer un beau tombeau. Et puis la vie est présente dans la mort puisque il y a une deuxième vie dans les champs de la douleur. Et c'est ça, à mon avis, qui nous attire, cet avant la séparation rationnelle, cet avant la logique judéo-chrétienne et grecque.
Ce rapport à la mort, il est au cœur de votre roman, Éric-Emmanuel Schmitt. Nous sommes donc à Memphis, hein, c'est l'ancienne capitale des deux royaumes d'Égypte, où on l'a, vous l'avez dit, poussé très loin la technique des rites funéraires, de l'embaumement. Est-ce qu'il y a un rapport aujourd'hui avec certains ultra-riches, on pense à ceux de la Silicon Valley, Elon Musk et d'autres, qui évoquent des concepts comme le transhumanisme, hein, on va rendre l'homme immortel, c'est un peu le même mécanisme?
C'est le même souci, en fait, qui s'incarne de façon différente selon les époques. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'humanité de loin, on trouve à la fois des variants, c'est l'histoire, mais on trouve aussi des invariants, c'est la nature humaine, c'est l'anthropologie. Et effectivement, je mets en rapport, puisque mon livre se passe toujours à la fois dans le présent et dans le passé, je montre comment le transhumanisme de la Silicon Valley, où se rend mon héros Noam, incarne le même rêve, c'est-à-dire le rêve de tuer la mort.
C'est un rêve nuisible, ça, ou bien c'est...
Je pense que c'est un rêve nuisible, oui.
Pourquoi?
Parce que c'est vouloir supprimer la condition humaine. Alors, l'homme augmenté, je ne suis pas contre. C'est-à-dire le fait qu'on puisse vivre plus longtemps, qu'on puisse réparer les organes, etc., etc. Au contraire, j'appelle ça tous mes voeux. Mais l'immortalité... Enfin, soyons sérieux et essayons d'imaginer, ça sera pour qui? Ça sera pour les super-riches. C'est-à-dire il y aura deux humanités, une sous-humanité et une humanité immortelle. Si elle s'appelle encore humanité. Et puis si on supprime la mort, on supprime la naissance. Il n'y a plus de raison de naître et de faire des enfants si l'on supprime la mort. Donc voilà, ce rêve me paraît particulièrement malsain.
Elon Musk, c'est un peu le pharaon d'aujourd'hui, quoi, si je vous comprends bien, Éric-Emmanuel Schmitt.
Complètement, oui.
Dès les premières pages, vous mettez aussi en scène Greta Thunberg. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça dans le roman, elle s'appelle Britta Thorsen. On la reconnaît tout de suite, hein. Vous dites que c'est une lame tranchante. Elle scinde ses contemporains en adversaires ou en partisans. C'est comme ça que vous la voyez, Greta Thunberg, c'est quelqu'un qui divise profondément la société.
Bien sûr. parce qu'elle reproche aux gens d'être sourds, de ne pas entendre ce qui se dit et ce que la science dit. Et c'est vrai que moi, je me suis confronté à elle dans ce sens-là, en me disant, mais c'est vrai qu'en fait, je sais, la science m'a fait comprendre qu'il allait se passer des choses, etc. Et pourtant, je ne change pas. Alors elle incarne ce savoir qui se transforme en action et qui veut déboucher sur l'action politique. Elle incarne un souci qui, je pense, est le souci de notre époque. L'humanité n'a jamais pensé qu'elle était allée trop loin, sauf aujourd'hui.
Mmh. Vous êtes un partisan ou un adversaire, du coup, de Greta Thunberg?
Ah, partisan, moi.
Mmh. Oui. En pleine COP27, vous êtes optimiste, vous, sur l'avenir de l'humanité, de la Terre?
Moi, j'ai ce qu'on appelle un optimisme tragique. C'est-à-dire que je pense que l'homme progresse uniquement en faisant le mal. C'est parce qu'il y a des guerres mondiales qu'on crée des sociétés des nations. C'est parce qu'il y a des pandémies mondiales qu'on fait des organismes mondiaux de la santé qui vont pouvoir surveiller les épidémies et les départs de feu. Je crois que c'est à travers les catastrophes et le mal que l'homme avance. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait avancer les hommes, c'est pas la volonté du bien, c'est la volonté du moins pire.
Vous l'avez dit, hein, on vit une succession de crises sociales. Il y a une grève générale hier en Belgique, oui. Il y en a en Allemagne, en France, en Grèce, un peu partout. Crise énergétique, crise climatique, on vient d'en parler. Est-ce que vous faites un lien aussi avec la civilisation égyptienne, justement, qui a duré 3 millions, mais qui a fini par disparaître? Est-ce que la nôtre est en train de disparaître? Est-ce que c'est ça, la succession des crises aujourd'hui?
Non, mais toutes les civilisations sont mortelles, naturellement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a dans le cœur de notre civilisation... la notion de progrès qui peut-être nous permet toujours de justement de pas disparaître mais de nous transformer.
Ce qui n'était pas le cas chez les Égyptiens.
C'est les Égyptiens. Figurez-vous qu'il n'y a pas de mot en égyptien ancien pour dire inventer. Il y a un mot pour dire trouver, mais il n'y a pas de mot pour dire inventer. Et c'est un peu de ça qu'est morte la civilisation égyptienne qui a pourtant duré 3000 ans. C'est-à-dire tout d'un coup, autour d'elle, il y avait les Perses, il y avait les Grecs, puis les Romains, qui, eux, se développaient technologiquement et scientifiquement, et qui, du coup, sont arrivés avec des armes qui ont un jour abattu totalement cette civilisation.
Bon, vous racontez donc l'histoire de cette humanité à travers les mémoires de Noam, hein. Il est scribe, il est médecin, il a une compagne qui est terrible, oui.
Noura.
Personnalité formidable, Noura, ils sont devenus immortels, et ils traversent donc les âges, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Cette entreprise de retracer l'histoire de l'humanité, Eric Emmanuel Schmitt, ça vous est venu quand et comment?
Comment devient-on fou? C'est ouais. Ça que vous êtes en train de me dire.
Non, c'est pas ça que j'ai dit, mais si vous le comprenez comme ça, c'est pas facile, effectivement. Non, vraiment, sérieusement, vous êtes réveillé un matin, vous êtes dit, allez, je vais raconter l'histoire depuis le déluge jusqu'à aujourd'hui?
Oui, ça m'a traversé quand j'étais je venais de finir mes études, j'étais assistant à l'université de Besançon en philosophie, donc je commençais et j'avais arrêté de lire Utile, comme on fait pendant nos études, et je recommençais à lire pour le plaisir, c'est-à-dire de la littérature. Et tout d'un coup, m'a traversé l'idée d'un roman qui raconterait l'histoire de l'humanité, parce que un roman, c'est différent d'un essai. Il y a des essais pour ça, il y a aussi des traités historiques, mais le propre du roman, c'est justement le contraire de la ruine. C'est-à-dire que le roman, il nous restitue le monde tout entier, avec ses odeurs, avec ses saveurs, avec sa chair, avec ses tensions, avec sa vie. Et je me suis dit que voilà, le roman avait quelque chose à faire pour nous raconter. Et puis c'est vrai que je pense que l'originalité de ce livre, c'est que normalement quand un livre parle d'histoire, c'est un roman national. Et moi je fais vraiment un roman international. C'est-à-dire quand je dis nous, c'est l'humanité tout entière. C'est pas nous les Belges, nous les Français, ou même nous les Européens, c'est nous l'humanité.
C'est nous les êtres humains. Vous travaillez déjà sur le quatrième tome alors,
oui.
Eric Emmanuel?
Je suis en Grèce.
En Grèce antique
Oui, suis à Athènes au 4e siècle avant Jésus-Christ.
Et cette histoire elle ira jusqu'au 21e siècle? Vous arrêtez quand
Non, je suis pas Cassandre. Je m'arrête au 20e siècle.
Bon.
21e.
Soleil sombre, c'est donc votre nouveau roman paru chez Albin Michel. Si vous nous regardez en télé sur la 3, vous le voyez.